Voici 100% CH avec Richard Labbé.
Ce sera un sujet récurrent de cette chronique avec Richard. Et avant coup, pour mettre la table, Jacob, quels sont les résultats de notre question du jour à date?
On rappelle question du jour aujourd'hui avec la semaine parfaite du CH, 3 victoires en 3 matchs et une 4e victoire de suite hier. Quelle est votre position en vue de la date limite des transactions le 7 mars prochain? Pardon. Présentement sur X, 40,1%, c'est peu importe, on vend, qui est en avance sur le statu quo. Et ça prend un deuxième centre rapidement. Si on regarde du côté de YouTube, eh bien, c'est ça prend un deuxième centre rapidement qui est en avance avec 40% des votes.
Vois-tu, on était à 52% il n'y a pas si longtemps cette semaine quand les boys ont fait ce sondage-là. 52% disaient « on vend ». Et là, on est rendu à 40%. Donc, ça a baissé un petit peu. Richard Labbé, comment vas-tu, mon cher ami?
Salut, mon très cher Greg. Je vais de manière excellente. Et toi-même?
Je vais d'une manière excellente, moi aussi. Et bon. Très heureux que ce soit ton cas également. Richard, on a mis cette table-là parce que là, c'est sûr qu'on sera suspendu à nos téléphones. Les gens vont être à l'écoute de BPM Sport toute la semaine pour voir quelles seront ou pas les transactions qui seront effectuées par Kent Hughes et Jeff Gorton cette semaine. La date limite des transactions arrive vendredi après-midi. Et là, on veut voir si le Canadien va bouger. Mais présentement, les joueurs font un plaidoyer très, très fort. Ils persistent et ils signent. On veut pas démanteler ce vestiaire-là pantoute.
Oui, et le message après le match d'hier avait été entendu également cette semaine au Centre Bell, parce que il y a quelques joueurs qui m'ont dit exactement ça, à savoir que selon eux, puis ça, c'était, à ce moment-là, je pense qu'on savait pas encore là, pour la nature exacte de Kirby Dack, mais je pense que les joueurs, peu importe, voulaient faire front commun et un petit peu dire à la direction, ben écoutez, touche à rien parce qu'on pense qu'on a des chances. Puis vous voyez, ben hier, le résultat à Buffalo, je pense que c'est la preuve de ça. Le club est compétitif. Bon, là, tu vas me dire, c'était seulement les Sabres. Ben écoute, ça dérange pas. Faut que tu gagnes ces matchs-là pareil, peu importe l'identité de l'adversaire devant toi. Et avec le peu de marge de manœuvre que le Canadien possède, écoute, l'an passé, de mémoire, là, les Caps de Washington étaient rentrés les derniers dans l'Est avec 91 points. Et là, si le Canadien conserve à peu près ce rythme-là, c'est quoi, depuis les 30 derniers matchs, le Canadien joue quoi là, pour une moyenne de 630 à peu près? Alors, c'est ça, il faut que ça veut dire là, que tu gagnes là,
deux matchs sur trois.
Ouais, c'est ça, 2 sur 3 d'ici la fin. Et puis, si tu es capable de faire ça, fort probablement que tu te retrouves, si tu n'es pas en série, en tout cas, tu es très, très proche. Alors, c'est un rythme-là, Greg, qui est assez difficile, évidemment, à tenir. Mais écoute, regarde le match d'hier un petit peu. Quand on dit que la pause a fait du bien, tu sais, des fois, on ambitionne un peu, on dit « Ah, là, c'est quoi la pause? Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. » Lane Hutson, avant la pause, avait l'air d'un joueur sans énergie, un joueur qui avait absolument plus rien dans le réservoir. Et là, tu vois, au retour de la pause, pour Lane Hutson, c'est 5 points en 4 matchs. Et hier, Lane Hutson est au centre de 3 chances de marquer qui ont donné les 3 premiers buts du Canadien de Montréal.
Ouais, et ainsi va Lane Hutson, ainsi va l'équipe. C'est quand même ça, tu l'as dit, il était au ralenti avant la Coupe des 4 Nations. Et l'équipe s'est ramassée avec une seule victoire en 8 matchs, là, si je ne me trompe pas. Ça tourne autour de ça. Il avait besoin, suite à ses saisons dans la NCAA, il avait besoin de ce petit repos-là qui lui a fait grand bien. Et on le voit présentement sur la glace.
Ben, il est en train de jouer comme, souviens-toi, là, avant les fêtes, on parlait de Trophy Calder. Ben là, il est en train de jouer exactement.
On en parle encore. Là.
C'est ça, on va recommencer à en parler, ça c'est sûr et certain, parce que là, présentement, il joue exactement comme ça. Alors, si lui, il est capable de tenir le rythme, tu sais, Greg, je déteste les clichés, tu le sais probablement, mais les meilleurs doivent être les meilleurs, malheureusement, c'est une réalité. C'est une réalité, tu sais, c'est quand même rare que tu puisses survivre dans du sport de haut niveau si tu n'as pas l'apport de tes joueurs importants. Et hier soir à Buffalo, Hutson a été absolument, comme je l'ai mentionné, là, au centre de toutes les occasions. Écoute, son jeu sur le premier but, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais allez revoir ça, là. Il perd la rondelle, donc devient lui-même victime d'un revirement. Et revient là-bas, se replie, va briser le jeu à l'autre bout, revient et s'amène au but de Cole Caulfield. Écoute, c'est.
Cole Caulfield qui s'est replié lui aussi, là, qui a fait tout un effort sur ce repli-là également.
Oui. Et puis ça, pour moi, ça fait un effet d'entraînement quand tu vois ça. Si t'es au banc, hein, puis tu regardes un joueur comme ça qui fait une gaffe et qui va lui-même réparer sa propre gaffe, puis après ça, ça mène à une chance de marquer, puis plus que ça, ça mène à un but. Ça fait un effet d'entraînement. Tu peux pas regarder ça au banc puis rester de glace. Là. Tu dis, oh, OK, bon, là, ça serait peut-être le temps que tout le monde se force. Là. Puis je pense que c'est ça que ça a donné hier. Et c'est ça que Lane Hutson apporte aux Canadiens. Oui, il y a les points. Oui, il y a les chances de marquer. Il y a tout ça. Mais je pense que même à l'âge qu'il a, il est capable d'avoir un ascendant sur le reste du groupe. Et quand tu le vois comme ça, comme on l'a vu hier, prendre les choses en main, là, littéralement, c'est ça qu'il a fait, ben c'est clair que ça a une influence positive sur le reste de l'équipe.
Ah, t'sais, t'as un gars comme Lane Hutson qui, en faisant ces jeux-là, t'sais, hey, c'est quasiment drôle. Là. On dirait qu'il y a un expert qui l'avait qualifié, qui avait qualifié sa combativité de average à lui. Hein? Bref,
qui ça?
Ça, je dis rien. Comment il s'appelle, là, celui qui avait
Corey
fait...
Corey Prondman?
Corey Prondman de The Athletic, qui avait fait cette liste-là, qui l'avait mis, quoi, 39e?
Assez loin, oui.
Ouais, et qui avait mis sa combativité comme average.
OK, bon, ben, il a peut-être fallait... pas...
Non, mais en fait, je te confirme qu'il n'y a vu aucun match de Lane Hutson, pour dire
ben,
ça. Ça, c'est...
Ben, c'est ça. C'est ça l'affaire. Tu sais, il y a une affaire avec Lane Hutson. Tu peux jamais remettre ça en doute, cette compatibilité. Ça,
non,
ça,
s'il y a quelque chose, s'il y a quelque chose que tu peux pas remettre en doute, non. C'est. Ben, en fait, ça, puis son stick handling. Tu sais, ce qu'il fait comme magicien, on le voit là, à la ligne bleue là, quand il bouge d'un bord et de l'autre. Là, bref, mais sa combativité, cela étant dit, fallait que je ramène ça sur la table. Là, il mène chez les recrues. Là, je vois sur le site de la Ligue nationale présentement 46 points. Encore devant Celebrini et Mishkov. On rappelle, c'est un défenseur. Juste des zones même. Là. Défenseur recru. Donc, la conversation pour le Calder, on sortira les cotes tantôt sur Bet99. Mais ce que je voulais dire, Richard, avec ça, c'est quand un gars comme Lane Hutson, une recrue qui donne cet effort-là, quand tu vois comment Suzuki se comporte comme force tranquille, dans ce vestiaire-là également, quand tu vois Caulfield impliqué de cette façon-là, Josh Anderson, on en parlait avec Eric un peu plus tôt, là, Josh Anderson qui semble transporter ses coéquipiers de la façon qu'il se bat présentement contre cette blessure-là ou ces blessures-là qui l'affligent. Même chose pour Brendan Gallagher comme vétéran qui continue d'être Brendan Gallagher. On a les réponses dans ce vestiaire-là pour s'inspirer et se motiver l'un et l'autre.
Oui, et ça me et je te ramène au plaidoyer des joueurs. Imagine-toi un petit peu, là tu reviens de Buffalo. On vient de le dire, 4 victoires de suite. T'es dedans, là. T'sais, là t'es plus que dans le mix. Là t'es dans la course de manière très, très réaliste. Évidemment, c'est on sait, là, c'est pas gagné, puis c'est pas gagné du tout. Puis la côte est abrupte, mais t'es là. Imagine-toi, là, demain ou après-demain, ou peu importe, mercredi matin, là, t'es Brendan Gallagher, t'es Nick Suzuki, t'es Anderson qui tient juste avec du tape, qui a mal partout. Et là, tu te lèves, puis là, t'apprends, ah, OK, Jake Evans est échangé, Vorak est échangé, Armia est échangé. Avant même de parler des trous que ça ferait dans ta formation, quel message tu envoies à tes propres joueurs? Qui se battent, qui donnent tout ce qu'ils ont. Tu sais, le Canadien, là, regarde, on va se le dire, là, c'est pas un club particulièrement talentueux. Mais présentement, ce qu'on voit, c'est un club qui est intense, qui compétitionne, qui est hargneux. Et des fois, tu peux combler un petit peu, pallier un petit peu un petit manque de talent par ça, par ce genre d'énergie. Alors, quelle sorte de message est-ce que la direction enverrait aux joueurs, puis aux partisans aussi, si dans 2-3 jours, tu échanges 3 gars, alors que le club est là, alors que le club compétitionne. Tu sais, Greg, ça serait une affaire de dire que le Canadien perd ses matchs 5 à 1. Les gars abandonnés, les gars pensent déjà aux plages de Rivière-Maya le 15 avril. Ça, ça serait une affaire.
Oui, la conversation n'était pas la même avant la Coupe des Quatre Nations, mais là, tu es à 3 points les séries. Et tu sais, en début de saison, on riait du management qui avait dit « on va être dans le mix ». Là, on est dedans avec la formation qu'on a présentement sur la glace. Là. Je veux dire que oui, bon, l'ère Bergevin est encore très présente dans ce qu'on voit là. Mais et la reconstruction n'est-elle pas là aussi faire confiance en ces joueurs-là? Tu sais, je veux dire, sans manquer de respect à Dvorak, Armia, tu sais, il l'a dit Kent Hughes aussi. Moi, j'ai mes prix, puis des choix au repêchage, j'en ai assez. Fait qu'est-ce que je suis capable de réaliser une transaction hockey à la date limite des transactions? Là, le besoin est criant, là. On a besoin d'un deuxième centre.
Ouais, ben, ça va être difficile, Greg, maintenant. Ça, je pense que cet été, le Canadien va avoir beaucoup plus de chances de mettre la main sur un deuxième centre qui est intéressant. Évidemment, il va falloir payer le prix. Moi, je m'attends plus à ce que ça se fasse cet été. Si ça se fait, on verra ce que le Canadien décide dans le cas de Kirby Dach. Moi, personnellement, ça fait 269 matchs que Kirby Dach joue dans la Ligue nationale de hockey. Je pense qu'on a déjà une bonne idée, là. Puis, à mon avis, il n'a rien démontré. Qui laisse croire que ce gars-là peut être un bon deuxième centre dans cette ligue-là. Alors, on verra ce que le Canadien va en penser. Moi, je ne m'attends pas à ce que le Canadien obtienne de l'aide vraiment d'ici le 7 mars. Mais j'ose croire que le Canadien... T'sais, c'est clair, Jake Evans, là, ça va être compliqué. Je ne pense pas qu'on va réussir à s'entendre parce que la marge, l'écart entre ce que Evans veut et le Canadien est prêt à donner, c'est quand même assez considérable. Dvorak, en tout cas, je n'ai pas parlé hier, je n'étais pas là-bas, je n'étais pas à Buffalo, mais cette semaine, Dvorak me disait qu'il n'y a absolument aucune discussion avec la direction. Je ne pense pas que ça a changé. Alors, je pense que le Canadien va fort probablement perdre ces joueurs-là, mais je pense que tu dois prendre le risque de voir où tu peux aller ce printemps tout en les conservant. T'sais, je pense que le Canadien doit ça à ses joueurs, mais le Canadien doit aussi ça à ses partisans. Greg, si jamais l'équipe rate les séries, ça va faire 4 années de suite. Et ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de cette équipe-là. Puis là, je sais qu'il y était un temps où il y avait 6 équipes dans la Ligue nationale, puis bon, tu ratais pas les séries si souvent que ça, si tu étais moindrement compétent. Mais qui veut de ça? Il y a personne qui a le goût de dire « OK, ben regarde, parfait, on va aller faire du bullying encore dans 2 semaines, puis on va se revoir au mois de septembre. » Je pense que le Canadien doit ça à ses partisans et le Canadien doit ça à ses joueurs. C'est-à-dire, moi, je pense pas qu'on peut, du côté du Canadien, s'améliorer avant le 7 mars, en tout cas pas de manière importante. Mais on peut, par contre, choisir le statu quo et décider d'y aller avec les éléments qu'on a.
Mais personnellement, moi, c'est ce que je ferais, Richard. T'as raison. Comment on peut aller, à moins qu'on explique aux joueurs exactement quel est le plan, ou que ce soit clairement une transaction qui va aider l'équipe à moyen long terme. T'sais, on s'en va chercher un deuxième centre. Mais qui va, par exemple, dans une transaction, prendre Jake Evans, Yoel Armia et je sais pas quoi d'autre pour, ça peut être des choix repêchage ou autre, là, considération future. Voilà. Hein. Pour un deuxième centre. T'sais, les équipes qui veulent faire des acquisitions ne veulent pas se départir d'un gars qui peut être un deuxième centre. Et on n'a pas besoin d'un autre projet ou d'un autre joueur que son équipe a abandonné, un peu à la Newhook, à la DAC. On n'a pas besoin de ça présentement. Là. On a besoin d'un deuxième centre là qui peut prendre ce rôle-là. On sait que, pour moi, maintenant, est-ce que Kirby Dach peut amener quelque chose à l'organisation? Certainement. Est-ce que c'est notre deuxième centre? Certainement pas. Ça, c'est mon opinion à moi. Il va falloir qu'on en trouve un en attendant de voir si Michael Hage peut remplir ce rôle-là dans quelques saisons. Ça ne sera pas l'année prochaine, lui non plus.
Non. Ben, c'est ça l'affaire. Il faut faire bien attention avec ces histoires-là. Dans le cas de Hage, c'est irréaliste de penser que lui va arriver ici au mois de septembre et qu'il va être prêt à jouer dans la Ligue nationale de hockey. On est encore très loin de ça. Maintenant, Greg, les bonnes transactions, les grosses transactions importantes se font à l'été. Quand les équipes ont plus de possibilités sur la masse salariale. À l'été, souvent, il y a des joueurs qui ne reviennent pas. Ça libère beaucoup, beaucoup d'argent. Et là, c'est là que tu peux tenter un grand coup. Moi, je reviens toujours au même exemple, Greg, mais tu sais, je vais te poser la question. Regarde le Canadien de Montréal de maintenant Et là, recul à l'été 2018, je ne sais pas si tu es capable de te souvenir des Blues de Saint-Louis à ce moment-là. Est-ce que le Canadien est vastement inférieur à ce que les Blues de Saint-Louis étaient à l'été 2018? Je te pose la question.
Et là, écoute, tu me ramènes dans une époque lointaine. J'ai regardé un épisode de La Guerre des Étoiles dans l'avion, dans une époque très, très lointaine, dans une galaxie qui est très, très lointaine également, à laquelle on va mettre la table pour ça dimanche prochain quand on va se parler. Qu'est-ce que tu en penses, Richard? Parce que là, faut absolument que je te laisse, mon ami.
OK, écoute, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que tu as une semaine pour cogiter à ça. C'est beaucoup.
C'est beaucoup, puis c'est vraiment parce que le temps presse, parce que ton sujet, il est très, très intéressant, mais j'ai pas de friolet qui s'amène dans 10 minutes, puis il faut jaser de certains sujets au retour. Richard, merci de ta collaboration, c'était vraiment le fun, puis tu viens de mettre la table pour notre deuxième période de notre championnat du monde tantôt également. C'est un plaisir de te retrouver, mon ami, puis on se croise demain, j'imagine, également, au Centre Bell.
Avec grand plaisir, Greg, salut bien.
Salut, mon ami. Voilà, Richard Labbé.